Allô, Christiane Campagna.
Allô.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
En ce mois de l'autisme, j'avais cette commande, cette envie. On avait en fait envie d'explorer des figures marquantes, des chercheurs qui sont liés à l'avancée, bon, de l'autisme. En même temps, c'est important, je trouve, d'en discuter parce qu'en ce moment, au Québec, on est vraiment des chefs de file ici en matière de recherche de l'autisme, mais il y a des gens qui ont mis des balises avant et ben, qui ont fait des recherches là, pour nous. Là.
En fait, ce que j'ai trouvé est représentatif de la situation dans la mesure où c'est encore en développement. On sait qu'il y a quelques années, on est passé de troubles envahissants du développement à troubles du spectre de l'autisme. Le syndrome de Rett qui en faisait partie avant et maintenant à l'extérieur de cette catégorie-là, mais ça demeure changeant, on continue de discuter les choses. Et en effet, dépendamment si on parle de l'Amérique ou de l'Europe, comme par exemple, on va parler tout à l'heure de thèse psychanalytique un peu, c'est toujours cité quand même dans certains écrits européens. Pourtant, les noms que je vais vous donner aujourd'hui, à part un chercheur qui a fait sa carrière aux États-Unis, ce sont des Européens. En fait, je vais vous parler d'un Suisse et de trois Autrichiens.
Ouais.
Il semble que la pédopsychiatrie et les choses connexes étaient très forte dans le monde allemand en général pendant un bon moment. On avait vu qu'Irma Ladouceur le mois dernier avait été se former en Allemagne pour la pédiatrie.
C'est vrai, merci de nous le rappeler d'ailleurs. Ce qui est frappant lorsque l'on lit vos recherches, c'est que d'abord, l'autisme, c'est considéré comme de la schizophrénie.
En fait, oui, c'est comme un symptôme ou une sous-catégorie de la schizophrénie pour celui qui va être le premier à utiliser ce mot-là. Mais plus je lis, plus je me rends compte qu'ils ne décrivaient pas nécessairement les mêmes personnes, probablement.
Ouais.
C'est qu'on doit le terme à Eugène Bleuler, qui est un psychiatre suisse, un professeur de psychiatrie à Zurich, qui a eu d'ailleurs parmi ses élèves Carl Jung, qui a connu Freud. Et c'est à lui qu'on doit le mot. En fait, on lui doit deux mots très importants. C'est lui qui est allé chercher dans les racines grecques pour créer le mot schizophrénie et créer le mot autisme. Dans le cas de schizophrénie, il est allé chercher des mots qui signifiaient fractionnement et esprit. Et dans le cas du terme autisme, la racine veut dire soi-même. Parce que lui, il l'a d'abord utilisé pour décrire une espèce de repli sur soi des personnes souffrant de schizophrénie. Et là, dépendamment des sources que je lisais au début, je me disais, bien, ils classaient les personnes autistes avec les schizophrènes. J'en suis de moins en moins sûre à mesure que je lis. C'est que j'ai l'impression qu'ils décrivaient une certaine attitude des personnes qui vivent avec la schizophrénie, qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes, parce que lui parle vraiment même d'un repli volontaire. Donc, probablement pas qu'il parlait, il a probablement pas analysé les mêmes patients que les autres chercheurs que je nommerai un peu plus loin et qui, eux, vont plutôt analyser des enfants, tout d'abord.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette distinction qui va se faire avec le temps, c'est que la schizophrénie, au contraire, se développe généralement à partir de la vingtaine.
Oui.
Alors,
jeune adulte.
Voilà. Ouais. Alors que pour l'autisme, on va parler de choses qui apparaissent dès l'enfance. Mais c'est intéressant, quand je l'ai recherché à propos des racines grecques, je suis allée sur c'est une espèce de dictionnaire en ligne, mais très pointu, que je consulte souvent, qui est le Centre national de ressources textuelles et lexicales.
Mm-hmm.
Et dans leur première définition de l'autisme, par contre, eux disent encore que c'est l'attitude mentale spéciale ou schizophrène comme définition de l'autisme. Alors, je me dis, il y a encore, peut-être que dans la science, on est avancé, mais dans une espèce de culture plus populaire, on confond encore. Les sources citées dans ce lexique-là dataient des années 60 et 70. Et j'ai même vu passer d'autres écrits des années 70, même plus récents, en Europe, qui parlent encore de causes psychanalytiques, quand même, pour l'autisme.
Il reste 3 minutes, donc c'est un défi, Christiane, parce qu'il nous reste 3 chercheurs.
Oui.
Bon, le deuxième, Léo Canard, qui, lui, peut-être je le prononce pas tout à fait comme il faut, mais lui, s'est intéressé à la pédopsychiatrie, justement.
Voilà, c'est lui qui a diagnostiqué l'autisme plus classique. D'ailleurs, on va dire aujourd'hui autisme de Canard. Et il est allé chercher le terme de Bleuler pour décrire ce que lui venait de trouver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que lui, en Allemagne, il y a Hans Asperger qui observait aussi des jeunes garçons et qui, pour décrire leur attitude, est aussi allé chercher ce terme qu'avait utilisé Bleuler. Donc, ils sont allés chercher le vocabulaire, mais pour diagnostiquer autre chose. Du côté de Canard, plus les symptômes qu'on identifie voilà, à l'autisme plus classique. Tandis que du côté d'Asperger, ben, c'est un symptôme qui portera son nom plus tard. Les enfants qu'il a observés, il les appelait ses petits professeurs à cause de leur fixation sur des sujets et du fait qu'ils en parlaient beaucoup. Sauf que lui avait écrit en allemand, a été publié seulement en allemand, et ça ira aux années 80 avant que ses écrits soient découverts par une auteure britannique qui s'appelle Lorna Wing, et c'est elle qui va dire le syndrome d'Asperger pour décrire ces cas-là. Et c'est en 91 que son article marquant, celui où il décrivait ça, a été traduit en français par Uta Frith.
Et en terminant, Andreas Rett, bon, qu'on utilise peut-être un petit peu moins maintenant parce que ce chercheur était davantage associé aux troubles envahissants du développement et on n'utilise plus ce terme.
En fait, c'est que depuis qu'on a changé de terme, le syndrome de Rett ne fait plus partie des troubles autistiques, mais le syndrome, lui, existe toujours. Il y a la petite fille d'une de mes amies qui a été diagnostiquée récemment, et c'est surtout des filles qui sont touchées dans ce cas-là, et on doit ça à un chercheur allemand. Mais un autre chercheur prononçait une conférence là-dessus quand il s'est levé dans la salle des années plus tard. La personne, le scientifique dont vous parlez, c'est moi. Et par générosité, l'autre chercheur a donné le nom de syndrome de Rett.
C'est quoi les symptômes, très rapidement?
C'est particulièrement, il observe, attendez un petit peu, là, c'est assez complexe, mais c'est comme une... Il y a une régression chez ces petites filles-là, la perte du langage et des mouvements répétitifs des mains. Ça, c'est ce qui est symptomatique pour ce qui est de l'identifier.
Mais OK. Pas... Bon, bien, merci beaucoup en ce mois de l'autisme d'avoir un beau portrait de ces quatre figures marquantes en matière de recherche. C'était très intéressant. Ça nous permet de comprendre bien des choses. Merci, Christiane Campagna.